qui vient dîner. Michel Durand-Valade. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Je ne sais que dire du livre que je viens tout juste de terminer, peut-être précisément parce que je n'ai pas eu le temps de la distance de celle qui laisse reposer les images aux arêtes trop vives pour laisser un peu de place à la réflexion, à l'approfondissement. Alors pour l'instant, je ne peux en livrer que des images fortes, pas mal de cadavres, des revenants, des sentiments de violence, de culpabilité, des abolitions du temps et de l'espace, le sombre travail de l'inconscient et somme toute l'image globale de l'humain dans tous ses questionnements, plus encore dans la multitude de ses égarements et dans son attente désespérée et probablement vaine de rédemption. Son auteur est en face de moi, je compte sur lui pour m'aider à y voir évidemment un peu plus clair dans le dédale de ses nouvelles, réunies sous le titre « Singulier ». Pluriel est paru aux délicieuses éditions. J'adresse toujours à Stéphane Beauvon un petit salut comme ça au travers de l'antenne aux éditions Hélice, hélas. Bonsoir Lucas Moreno.
Bonsoir.
Bonsoir. Vous avez choisi, après apparemment de nombreuses et diverses activités allant de la musique au journalisme, en passant par l'enseignement ou encore la traduction, j'ai pas vu la vente de chaussures ou non. Ou les marchés.
J'ai tu cette partie.
Vous avez tu cette partie commerciale. Ouais. Donc, vous avez choisi de ne plus vous consacrer qu'à l'écriture. C'est l'activité qui intimement vous comble le plus.
Eh bien, disons à moitié, étant donné que je suis papa depuis 4 mois, donc je suis officiellement depuis.
Ah, mais ça, c'est pas
février.
Un métier, papa.
Oh ben, je sais pas ce qu'il vous faut. C'est un sacré métier. En tout cas.
Non, mais
je suis débutant dans le métier.
À qui parlez-vous?
Donc, je suis officiellement papa au
foyer
et écrivain.
Bravo, toutes mes félicitations.
Merci.
Donc, non, mais c'est assez compatible ou pas?
Complètement, ouais.
Oui, vous arrivez à vous extraire de la page pour aller longer, répondre à l'appel pressant de la faim ou...
Pour l'instant, ça se passe plutôt bien, oui.
Alors, tant mieux. Dans ce livre, je sens bien que vous avez quelque chose d'assez brûlant à dire. Mais j'avoue ne pas avoir réussi à donner à ce message un contour très net. Et c'est encore une fois pas de votre faute, je crois que vraiment qu'il faut mettre un peu de distance. Alors on va en parler ensemble, c'est plus simple. Mais auparavant, j'aimerais que vous nous présentiez votre invité, qui est très très armé pour m'aider d'ailleurs dans cet exercice, je crois. J'ai cru comprendre.
Mm-hmm. Ouais, ça ne m'étonnerait pas qu'il soit bien armé, étant donné que c'est une des personnes que je connais qui a... l'érudition, la culture générale la plus vaste. Enfin, en tout cas, moi, je suis très souvent impressionné par la culture de Thibaut. Donc, c'est Thibaut Kayser que j'ai invité pour diverses raisons. Tout d'abord, parce que c'est un ami très, très cher, un ami vraiment proche qui suit mes pérégrinations d'auteur depuis 2002, quand j'ai commencé à écrire. Donc, qui a suivi vraiment toutes les étapes, qui était présent pour, je crois qu'on peut dire qu'il a lu la quasi-totalité de mes textes. Il m'a fait des feedbacks éditoriaux super précis sur ses textes. Il m'a permis d'avancer dans mon travail d'écriture. Et ça va d'ailleurs à deux sens parce que Thibaut est lui-même auteur de nouvelles. Et donc, nous avons fait partie, disons, de structures, de groupes d'écriture où nous écrivions et nous donnions des feedbacks éditoriaux. Donc, je le connais avant tout comme universitaire, comme historien, étant donné que je l'ai connu à l'université de Genève, qu'il a fait une licence ès-lettres. Suite à cela, il a fait une école de journalisme à Paris. Et puis en revenant de Paris, il a commencé très vite à faire ses premières armes comme journaliste, comme pigiste. Je vais peut-être après te laisser la parole pour que tu puisses dire où tu as travaillé, mais actuellement il est donc journaliste dans un hebdomadaire roman qui s'appelle l'Éco Magazine. Mmh. Et puis voilà, donc j'ai invité Thibaut parce que c'est un grand ami, c'est quelqu'un qui m'a suivi dans ma démarche d'auteur, et puis parce que je pensais que je serais à l'aise, ce qui est le cas, en sa présence.
Et voilà, et qui dira des gentilles choses.
Voilà.
Journaliste à Éco Magazine, Éco Magazine c'est quoi?
Alors c'est un hebdomadaire. Un vieil hebdomadaire. On a 81 ans, donc on a quand même un des plus vieux hebdomadaires de Suisse romande. On nous connaissait autrefois comme l'Écho illustré. C'est typique avec nos lecteurs, même entre nous, d'ailleurs, on se dit souvent encore.
C'est encore Écho illustré.
Dans la tête de plein de gens, ouais. Et le nom a été changé il y a, je crois, une quinzaine d'années pour des questions de concurrence. Donc on est un hebdomadaire indépendant. On fait partie de la
petite
presse.
Donc un groupe.
Aucun. un groupe qui s'appelle Sari Press, donc ouais. qui possède simplement
enfin,
les
commandes. Enfin, par Rungier, par tout ça.
Pas ouais. du tout. Et on se porte bien, en bonne santé
on
financière.
On se porte bien 81 ans.
On peut le dire quand même, c'est assez rare dans les médias. Et petite équipe, je m'y plais.
Et vous occupez de quoi dans l'éco-magazine?
Alors, on a l'avantage d'être très polyvalent, puisque petite équipe, ce qui signifie qu'on doit être quand même capable de traiter toute une série de sujets. Juste une chose à rappeler, c'est que l'hebdomadaire, l'éco-magazine a un code génétique, on dira catholique, chrétien.
C'est pas très grave jusque-là.
Oh, pas du tout. Mais
ah bon, d'accord, vous avez l'air de vous en excuser.
Non, pas du tout. Pas du tout. Moi-même, je suis croyant, j'ai aucun souci avec ça. Mais juste pour le situer, parce que c'est vrai qu'on a quand même une sensibilité qui fait qu'on a des lecteurs qui sont attachés, et tant mieux, c'est notre honneur, et on a notre ligne. Mmh. Et donc moi, au début, je touchais à pas mal de sujets, j'ai fait la religion, la politique, politique internationale, mais maintenant, c'est surtout la culture. Donc, les livres, la littérature, la BD, les expositions, Beaux-Arts aussi, et puis la musique.
Et vous êtes, nous dit-on, un grand connaisseur de fantastique, de polar,
ouais.
De cinéma de genre et de littérature, donc au sens plus large. Uh-huh. Ça, ce sont, pour l'un comme pour l'autre, ce sont des. Comment dire, ce goût pour le fantastique, c'est une déformation ? Je ne sais pas si c'est le bon mot, d'adolescence ?
Oui, en tout cas en ce qui me concerne, ça remonte à l'adolescence. C'est marrant parce que souvent les gens qui sont très très férus de fantastique, de science-fiction, racontent volontiers qu'ils ont découvert ces genres-là à l'adolescence. Moi j'avais 10-12 ans quand j'ai commencé à lire mes premiers textes de science-fiction, de René Barjavel en passant par Asimov, Van Vogt. J'ai commencé vraiment par les classiques. Bah, étonnamment, les amateurs disent parfois qu'ils commencent plutôt avec des anglo-saxons. Moi j'ai commencé avec René Barjavel. Une rose au paradis, c'était mon premier
magnifique
choc.
Livre.
Oui, magnifique livre. Mais j'essayais de lire avec mes élèves quand j'étais professeur.
Ça n'a pas marché.
Parce que le couperet de la censure est tombé. Il y avait des passages un peu trop hot au goût de la directrice. Mm-hmm. Mais une histoire d'amour qui remonte à l'adolescence pour moi.
Mm-hmm. Et pour vous, Thibaut Kézé?
Alors je dirais l'adolescence, mais presque plus tôt.
Plutôt ouais. J'étais petite enfance, à 4-5 ans déjà.
Alors, si on peut aller très loin, en effet. écoutez, j'évoquais la question de la foi. La foi ouvre des dimensions sur toute une série
science
de...
science-fictionnelle, ça, je vous le confirme.
Oui, mais écoutez, sur plein de dimensions dites surnaturelles. Alors, c'est une sensibilité qui m'est personnelle. C'est évidemment lié à une vie intime, spirituelle. Mais c'est vrai que ça se développe et ça devient plus concret, notamment avec des lectures à partir de l'adolescence. Et pour moi, ça a été plutôt... ça a été plutôt les grands coups, les grands. Bon, il y a eu d'autres littératures. Moi, mes premiers grands souvenirs de littérature, c'est du Jules Verne, c'est du Stevenson, qui est un énorme auteur. Mais au niveau fantastique, j'avais plutôt Tolkien, qui a été un grand coup, et Lovecraft. Ouais, mm-hmm. Lovecraft. Puis après, suivi par beaucoup d'autres, des Richard Matheson, des Algernon Blackwood, que j'aime beaucoup, du King, évidemment, Stephen King. Puis évidemment tout le 19e siècle, Poe, Maupassant. Il y a toute une série d'auteurs. Divers et variés.
Et Mary Shelley.
Et aussi beaucoup de mythologie aussi. Je me suis beaucoup intéressé à tout ce qui est ethnologie, mythologie ancienne. Il y a évidemment beaucoup de correspondances entre les mythes anciens, les questions de vie et de mort qui sont posées par toutes les religions.
De création, de créatures,
tout à fait.
Etc.
Les monothéismes, le paganisme, on trouve de tout. Mais au niveau de la littérature, Scheller, évidemment, là on pourrait dire des choses aussi sur tout ce qui est d'ailleurs, puisqu'on parle d'auteurs suisses notamment. Mary Shelley n'était pas six, mais Frankenstein est un ouvrage qui a été conçu.
Exact. Dans une villa, une villa genevoise.
Et d'autres pour. Mais oui, écoutez, beaucoup d'auteurs. Alors là, j'en ai cité quelques-uns, mais la liste serait longue. Et pas que du fantastique, bien entendu.
Et cela dit, je vais présupposer de votre athéisme, Lucas Moreno. Alors, je ne sais pas dans quelle mesure ce livre m'a mis sur la piste, mais. Je me suis dit que c'était un livre de quelqu'un qui n'avait pas de foi, comme ça, en une verticalité divine. Et ce sont des conversations entre vous ?
Oui, alors on parle souvent de spiritualité, de religion. En l'occurrence, je ne suis pas du tout athée, donc je suis croyant, mais pas pratiquant. Enfin, j'ai toujours été passionné par toutes les formes de spiritualité et de religion. Contrairement à pas mal de personnes qui ont, disons, une... comment dire, qui ont ressenti l'apport de la religion comme quelque chose d'agressif. Ça n'a pas été mon cas parce qu'on m'a jamais rien imposé. Donc moi j'ai découvert, j'ai lu voilà le Nouveau Testament quand j'avais 10 ou 11 ans, tout simplement parce que ça m'intéressait. Il était dans la bibliothèque familiale, je l'ai lu et puis de fil en aiguille j'ai commencé à m'intéresser à d'autres choses. C'est d'ailleurs ça qui m'a un peu orienté dans mes études, vu que après le christianisme, il y a eu le bouddhisme, donc j'ai étudié le bouddhisme à l'université de Genève. Là, c'est clair que l'approche, elle est complètement... comment dire, l'objet est religieux, mais l'approche ne l'est pas du tout.
L'approche c'est philosophique voilà. Ou anthropologique.
Voilà,
vous
voilà, c'est une approche académique de recherche, mm-hmm. histoire des religions. Mais disons, c'est difficile à expliquer, mais à un niveau personnel, oui, j'ai une foi qui... comment dire, à des contours chrétiens, mais qui sont un petit peu vagues. C'est quelque chose que je ressens, mais je ne suis pas pratiquant et je ne me réclame pas d'une religion en particulier. Je ne suis pas du tout athée, alors même pas agnostique.
Comment est-il possible, mais, n'y répondez pas tout de suite, c'est une réflexion comme ça que je livre, mais comment est-il possible que quelqu'un qui a une foi, même sans qualification particulière, ou sans dogme, ou sans école, ou sans nom, est porte un regard aussi sombre sur la nature humaine. On verra ça plus tard. Avant, j'aimerais bien, c'est un petit exercice obligé, Thibaut Kayser, que vous nous fassiez, tel que vous le connaissez depuis pas mal de temps, donc, le portrait de Lucas Moreno, tel que vous le percevez.
D'accord. Lucas, un ami, un grand ami, un ami intime du premier cercle, que j'ai connu, oui mon Dieu, c'est presque une autre vie. On peut mentionner parce qu'il il a relevé qu'on s'était rencontré à l'université, et en l'occurrence c'était dans des cours d'histoire des religions d'ailleurs. Donc il y avait une petite connexion, un écho comme ça, qui nous vient d'un peu loin. C'est quelqu'un qui est entier, qui, quand il se consacre à quelque chose, il ne le fait pas à moitié. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'énergie, qui doit la canaliser et qui le fait notamment dans sa littérature. Je crois que la littérature est un vecteur, un moyen d'expression qu'il a su identifier, qu'il est en train de faire sien. Il en est qu'à ses débuts. Il est déjà bien parti.
10 ans, c'est quand même pas mal, hein.
L'écriture, c'est un long processus, hein, oui. Quand même, parce que évidemment, il y a différentes façons, je pense, d'envisager. Et puis, hein, on aura autant de réponses qu'il y aurait d'interlocuteurs, d'écrivains, d'amateurs, etc. Mais c'est quelque chose qu'il envisage sur le long terme, avec aussi, surtout, c'est quelque chose peut-être qui ressort dans vos remarques, mais une recherche c'est quelqu'un qui essaye de repousser souvent les limites. Non pas des limites parce qu'il a envie de franchir un tabou, enfin, qu'est-ce qu'il y a encore comme tabou aujourd'hui, il n'y en a plus beaucoup.
Difficile à dire, oui.
Ouais, mais qui a vraiment une volonté d'aller le plus loin possible pour des questions de cohérence, je pense.
Ça veut dire que pendant ces 10 ans, vous avez regardé son travail, vous l'avez éventuellement commenté ensemble, vous l'avez vu évoluer ?
Oui, alors clairement, j'ai clairement vu évoluer. Et il y a des grands à-coups, il y a des grandes pannes, il y a des grands bonds en avant.
Des grands sauts créatifs.
Il y a des périodes d'émulsion, il y a des périodes d'angoisse.
Des grands moments de solitude. De régression même, peut-être.
Oui, on peut le dire.
Oui.
Soyons fous.
Oui, ça. Mais ça fait partie, et c'est ça qui est intéressant, parce que de mon point de vue, alors je pourrais parler en tant que journaliste qui fait des critiques sur des livres qui sortent, mais et là on pourra en parler évidemment, mais ce qui est intéressant c'est de voir, j'ai un peu le regard de l'insider, de la personne qui voit de l'intérieur, et voir à quel point c'est une affaire finalement, l'écriture tellement compliquée, extrêmement prenante, très exigeante. De longue haleine. C'est un peu un exercice de marathonien finalement. Mais avec des résultats évidemment très gratifiants.
On va voir ça avec ce livre, donc Singulier Pluriel, paru chez Elisella. Je vous propose d'écouter, on va commencer en plus classique d'humeur, c'est les Beatles, Octopus Garden. I'd like to be under the sea in an octopus's garden in the shade. He'd let us in, knows where we've been, in his octopus's garden, in the shade. I
in our little hideaway beneath the waves, resting our head on the seabed in an octopus's garden near a cave. About the coral that lies beneath the waves. Oh, what joy for every girl and boy, knowing they're happy and they're safe. We would be so happy, you and me. No one there to tell us what to do. I'd like to be in an octopus's garden with you. In an octopus's garden with you. In an octopus's garden with you.
Ça enchaînait dans l'album, ça enchaînait sur la suite. Octopus's Garden, c'était les Beatles. Un petit tour sur la route.
Infotrafic, RTS.
Sur la 12, Fribourg-Bulle, un bouchon est toujours signalé entre Fribourg-Sud et Matran en direction de Bulle, suite à un accident.